Bonsoir et bienvenue aux Informés de France Info avec ce soir un nouvel épisode de Retour vers le futur. François Hollande et Bernard Cazeneuve ensemble devant les militants socialistes à Cherbourg. Je ne suis jamais parti de la vie politique, a déclaré l'ancien président. Son successeur appréciera. Emmanuel Macron, justement, s'est donné 4 jours jusqu'au prochain Conseil des ministres pour trouver un successeur à Nicolas Hulot, voire plus si affinité. La rentrée des prof aujourd'hui. Il y en a un qui veut surfer sur le succès, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, en photo sur une planche à voile en double page intérieure de Match. Elles envahissent nos rues et bientôt nos entreprises. Les trottinettes électriques sont-elles la solution des mobilités urbaines? Elles posent quand même un réel problème de sécurité. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Juliette Méadel.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes également membre du groupe de travail sur le service national universel. Également invité ce soir, bonsoir à vous Éric Scholl.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction de Courrier International et vous publiez d'ailleurs avec Pierre de Panafieux Cas d'école chez Fayard, ça parle d'éducation évidemment.
Et les défis de l'éducation. Oui.
Hervé Nathan, bonsoir et bienvenue à vous également.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et notre invité, le quatrième élément, Olivier Babeau, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président de l'Institut Sapiens, c'est une think tank traduction.
C'est un groupe de réflexion qui veut remettre l'humain au cœur de cette société numérique. Qui
merci de faire le pitch à ma place. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT. Alors ceux qui pariaient sur son effacement en sont pour leurs frais. François Hollande est de retour et de quelle manière l'ancien président a retrouvé son ami Bernard Cazeneuve à Cherbourg, la ville dont l'ex-premier ministre a été jadis député-maire, officiellement pour une nouvelle séance de signature des leçons du pouvoir dont François Hollande a écoulé quelques 100 000 exemplaires. Retour, enfin, pas tout à fait.
Je ne suis jamais sorti, si ce n'est de l'Élysée. Je ne suis jamais parti de la vie politique. Et on ne se met jamais en retraite de la France.
Juliette Méadel, il n'est jamais parti, votre ex-président?
Quand on est président de la République un jour, on reste toujours engagé,
président
forcément.
Un jour, président toujours.
C'est vous qui le dites. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une passion pour la vie politique. Et je crois que c'est évident qu'on ne reste pas insensible à tous les niveaux quand on a été membre du gouvernement.
Vous êtes sympa avec lui, hein? Et un brin prudente, il est en campagne, quoi, François Hollande?
Mais comment voulez-vous nier un engagement qui a été le sien? Vous n'allez pas demander à un ancien président de la République de se taire.
Ouais.
Il y a une chose qu'il n'a pas faite, il ne s'est pas présenté à une élection. Et d'une certaine façon, en le fait de ne pas se porter candidat à les dernières élections présidentielles, c'était quand même un signal à la fois presque historique et de fort de retrait de la vie politique. Alors oui, il a cette passion dans le sang. Il a aussi la passion des bons mots et des blagues.
On va voir
bien
ça.
Là.
On va passer mais,
il y a quand même eu à un moment cette idée qu'il n'allait pas se présenter. Alors il peut l'emballer comme il veut aujourd'hui, c'est-à-dire oui, mais il fallait laisser la place à quelqu'un. Il fallait de toute façon préserver la victoire d'un camp. Enfin, battre Marine Le Pen derrière. En tout cas, il n'y est pas allé.
Mais c'est justement parce qu'il n'y est pas allé. C'est justement parce qu'il n'y est pas allé qu'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que si on compare par exemple avec Jacques Chirac qui a fait ses deux mandats, avec Nicolas Sarkozy qui en a fait un puis qui a échoué à en faire un second, peut-être que si François Hollande ne s'est pas présenté, c'est parce qu'il avait en tête de revenir.
Ça s'appelle
quand même
refaire l'histoire un petit peu.
Hervé Nathan, il ne s'est pas présenté, mais vous sentez qu'il va peut-être un jour se représenter?
Tout le problème, à mon avis, c'est que pour François Hollande, c'est qu'il va falloir un jour, il va falloir qu'il se place quelque part. Parce que pour le moment, il flotte un peu dans le désert politique qui est la gauche. Et en même temps, il est très encombrant pour l'ensemble, pour ses amis, pour ceux qui voudraient même rassembler s'il avait l'intention de le faire, parce que côté tant qu'il est là dans le paysage, il fait de l'ombre. Alors Olivier Faure a disparu totalement, donc il peut pas reconstruire l'appareil.
On
parle pas de Monsieur
Besson. C'est pas très gentil ça.
Pas gentil parce que ça fait référence à la référence. C'est pas très gentil en fait quand on connaît chez les socialistes. Mais voilà, donc la question là, il empêche l'émergence. empêche, d'une certaine manière, il empêche jusqu'à la reconstruction de quelque chose. Enfin, ça, faudrait pas que ça dure, voilà.
C'est, alors, justement, Olivier Babeau,
comment sortir? Ouais,
voilà. Olivier Babeau, est-ce que François Hollande n'est pas, au fond, quelque part, le vrai boss du Parti Socialiste, ou du moins ce qu'il en reste?
Oui, c'est évident que ce que ça montre très clairement, c'est que, bah, il y a plus de leader, il n'y a toujours pas eu un nouveau leader, et ça prouve, en quelque sorte, à contrario, le niveau de la gauche qui s'est pas remis. Ça prouve aussi ce grand syndrome français, qui est que quand on a fait toute sa vie que de la politique, en réalité, on ne sait faire que ça. On le voit aussi avec Nicolas Sarkozy, au fond. Et, on a du mal à passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, on n'a jamais rien développé d'autre dans la vie. Peut-être qu'avec Emmanuel Macron, évidemment, ça nous guette pas. En tout cas, je crois qu'aux dernières élections, on a vu très clairement le dégagisme, il a été très très clair dans tous les camps. Désolé, mais parlons du néologisme, j'ai pas vu de retourisme du tout pour l'instant, d'aucune façon. Peut-être qu'il y aura une autre forme de dégagisme avec qui sont grévés, mais de retourisme pour l'instant, rien. D'ailleurs, qui a réussi à revenir, à part le général de Gaulle?
Alors, nous allons continuer cette analyse du retour supposé de François Hollande. Deuxième extrait, il évoque l'ancien président des réformes.
On ne peut pas simplement être dans la gestion ou dans l'accumulation de réformes soi-disant indispensables. Une réforme n'est pas une conviction. Ce qui doit animer le président de la République, c'est une vision de l'avenir de son pays.
Pas très tendre implicitement avec son successeur, Juliette Méadel. C'est cette petite musique qui peut agacer le pouvoir en place, Emmanuel Macron.
Non, mais on peut bien se douter que si un ancien président de la République prend la parole, c'est parce qu'il a quelque chose à dire.
Vous voulez dire pour tailler son successeur?
Ce qu'il a à dire, c'est qu'on sent bien que, comme une partie de l'électorat, et dont je suis, qui était l'électorat de François Hollande, qui était l'électorat socialiste, comme une partie de cet électorat a voté Macron, on voit bien que, naturellement, l'ancien président de la République cherche à s'adresser à cet électorat-là, en pointant d'ailleurs des points de rupture avec lui. Mais je m'interroge quand même parce que, sur la social-démocratie que l'ancien président de la République évoque aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même une orientation qui fait un peu défaut ces derniers temps. Parce que les discussions avec les corps intermédiaires aujourd'hui, on ne les entend pas. Et parce que la question de la concertation mériterait peut-être d'être mieux mise en valeur. Et moi qui travaille en ce moment sur le service national universel, nous sommes en train de mettre, donc c'est un groupe de travail indépendant qui travaille à la mise en place d'une concertation. Autrement dit, la concertation, ça se construit, ça se bâtit, ça s'exprime, et ça se veut.
Vous faites un peu du Hollande. On va poursuivre là-dessus, rassurez-vous, 20h10 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
La CFDT conteste la nomination de Philippe Besson en justice. Le syndicat va demander l'annulation du décret publié le 4 août dernier. La nomination de l'écrivain proche des Macron comme consul à Los Angeles a suscité de vives critiques. Le président se défendant de tout copinage. Emmanuel Macron épinglé par François Hollande aujourd'hui à Cherbourg. Sans jamais le nommer, l'ancien président a multiplié les pics. On ne peut pas être simplement dans l'accumulation de réformes, dit-il, il faut une vision. François Hollande, qui assure par ailleurs n'avoir jamais quitté la vie politique. Dans le Gard, la garde à vue du gendarme qui a tué un automobiliste près de Nîmes hier a été prolongée. Le conducteur avait forcé un barrage après avoir causé deux accidents. Le fonctionnaire a tiré après lui avoir demandé de s'arrêter à plusieurs reprises. Deux personnes grièvement blessées, poignardées dans la gare centrale d'Amsterdam. Aujourd'hui, l'assaillant présumé a été blessé par balle, un tir de la police qui n'exclut pas la piste terroriste, mais les motivations de l'agresseur sont toujours inconnues. Et puis la 7e étape du Tour d'Espagne en cyclisme remportée par Tony Galopin, le Français est parvenu à s'extraire du peloton à 2 km de l'arrivée. Au classement général, il est 5e, Rudy Mollard conserve son maillot rouge de leader.
France Info. 20h, 21h, Les Informés, Jean-François Aquili.
Hervé Nathan, est-ce que François Hollande n'est pas en train d'empêcher le Parti Socialiste de grandir?
C'est ce que disent certains au sein même du Parti Socialiste, c'est qu'il y a un moment, il faut savoir... deux choses. Une, soit il veut redevenir premier secrétaire du Parti Socialiste, et d'une certaine manière, ça aurait un peu de sens, de dire, voilà, je reprends le combat, je repars à zéro, je repars de la base, parce que quand même, il est tombé tout à fait par terre l'année dernière, enfin, même à la fin de l'année précédente. incapable de se représenter, son parti fait, son courant dans le parti est laminé par Benoît Hamon, qui lui-même fait 6,5%, si je me souviens bien, oui. Je fais pas d'erreur, etc. Donc il y a tout un conçu à limite. Il y aurait du courage, il y aurait du panache à dire, mais je reprends tout à zéro, je me présente, je demande un congrès, je suis candidat, et allons-y, on reprend.
Voilà. Ça, est-ce que c'est pas un peu le vieux monde, ça? Moi, je crois que...
Plutôt que de pourrir la vie de ses successeurs.
Non, mais sincèrement, je crois que ce qui s'est passé en 2017, c'est que la forme actuelle des partis politiques est complètement dépassée. Et donc, on peut aujourd'hui, je dis pas qu'on n'a pas besoin des partis politiques, hein, je pense qu'on en a vraiment besoin, mais on peut aussi convaincre en dehors des partis politiques. Et c'est aussi ça qu'on voit émerger, mais pas que de la part de François Hollande. Il y a d'autres formes d'expression publique. Ouais. Il y a des fondations. La démission de Nicolas Hulot, qui du coup se présente comme société civile, mais malgré tout fait de la politique, vous montre qu'il y a d'autres manières de convaincre que d'être dans un parti politique. Et donc, je pense que c'est ça aussi.
On va voir si Nicolas Hulot arrive à venir faire une autre expression. Mais sur d'abord, ce qui s'est passé pour le Parti Socialiste, c'est pas uniquement en France. On a quand même vu un peu partout en Europe, tous les partis socialiste ou sociodémocrate perd beaucoup, beaucoup de voix et d'électeurs au cours de ces dernières années. Donc la remise en cause, ça ne concerne pas uniquement François Hollande, c'est beaucoup plus un mode de pensée, c'est beaucoup plus un bloc idéologique. Et là-dessus, c'est bien de faire des petits mots de la part de François Hollande. Et on peut très bien comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, on peut dire qu'il était maltraité par Emmanuel Macron. Mais au-delà de ça, on a quand même besoin d'idées aujourd'hui.
Que ce qui se produit là est de bonne guerre.
Sur le plan politique, oui, complètement. Mais on a quand même besoin d'un réarmement idéologique du Parti Socialiste. Et on ne le voit pas aujourd'hui. C'est ça dont on a besoin.
Ce que je trouve extravagant, pardonnez-moi, je réponds à votre interpellation, Juliette Méadel, c'est qu'un ancien président, au fond, intervienne aussi souvent. Et on le sait, cette petite musique est à l'encontre de son successeur. On l'entend, ça transpire dans les mots. Vous êtes d'accord ou pas avec ça?
Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec vous.
Je ne parle pas de jugement, je constate.
Non, bien sûr. Mais juste sur le fonctionnement de la démocratie. Après tout, qu'un ancien homme politique qui pulsait un ancien président se relance dans le débat. Ouais. Nicolas Sarkozy est bien revenu après son échec. Moi, je trouve que ça me choque pas. Il y a du débat. Le débat, c'est bon pour la démocratie. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, il y a rien de choquant à ce qu'un ancien président de la République prenne part au débat.
Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Babeau? C'est du simple débat.
Non, je crois que c'est plus que ça. On a vraiment une absence de rénovation à deux niveaux. Dans les personnalités qui émergent, personne de nouveau n'a émergé. D'ailleurs, ni à droite réellement, ni à gauche. Et pas d'idée non plus, parce qu'effectivement, ce besoin de vision, il a raison, François Hollande, il faut une vision. Le problème du PS, c'est qu'il était en état de mort cérébrale, exactement comme LR, c'est-à-dire qu'il ne réfléchissait plus. Il n'avait depuis plus longtemps plus aucun logiciel permettant de parler aux gens, et les Français, très rapidement, ont compris que c'était un poulet à qui on avait coupé la tête. Et donc, il va falloir effectivement réinventer, je suis tout à fait d'accord, les partis politiques, depuis 2017, ne peuvent plus se concevoir de la même façon qu'autrefois. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, comme un Emmanuel Macron, c'est d'abord un courant de pensée qui va se cristalliser autour d'une personne, et en quelques mois, grâce à Internet et au numérique, vous pouvez avoir 300 000 personnes qui vous suivent. On n'a plus, on pourrait dire, ce parti avec très très lourd à l'APS.
Ah, vous partagez le point de vue de Juliette Méadel.
En fait, mort, il va falloir qu'il se réinvente.
Je crois quand même, malgré tout, que les choses vont changer. Alors, si on aborde la troisième phase, c'est-à-dire qu'après la révolution Macron, je crois qu'on va avoir besoin, à un moment donné, d'un retour à de la politique nouvelle version, ni les vieux partis, ni un monde sans parti politique, une nouvelle manière de faire de la politique. Et encore une fois, que dit Nicolas Hulot quand il démissionne? Il dit « Je n'avais personne dans la rue pour venir manifester, pour défendre ma cause. » Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je n'avais pas de parti politique. » Autrement dit, il dit « J'avais besoin de faire de la politique à l'ancienne. »
Alors, transition toute trouvée, je vous donne la parole, Hervé Nathan. C'est promis, quand François Hollande s'exprime justement sur la démission de Nicolas Hulot.
Il faudra faire des choix. Sans doute, Nicolas Hulot les avait à l'esprit quand il a décidé de quitter le gouvernement. Des choix difficiles, des choix courageux. Nous les avions faits pour une grande part dans la loi sur la transition énergétique. Et c'est nous l'oublions jamais, qui avons, avec Laurent Fabius, Ségolène Royal et Nicolas Hulot, réussi la conférence sur le climat. Donc il faut avoir cette vision longue et des décisions courageuses qui doivent être prises.
Alors, Juliette Méadel, à l'instant, parlait d'un Nicolas Hulot trop seul. Hervé Nathan, apparemment, François Hollande valide cette démission surprise de Nicolas Hulot. Il a raison.
Oui, sur la, dans le rapport de force politique, il faut avoir des troupes. Et que ce soit, alors que ce soit des partis ou des mouvements, ça veut dire qu'il y a des machines démocratiques dans lesquelles il y a du débat en interne. Et excusez-moi de le dire ici, je ne pense pas que les think tanks, je le dis pour vos deux invités, je ne pense pas que les think tanks,
les cercles de réflexion,
oui. Même si c'est utile, sûr, etc., puissent remplacer ce qu'est l'élaboration collective démocratique de militants à l'ancienne, des choses qu'on voyait. D'une certaine manière, la contestation des partis politiques, des vieux partis politiques, on l'a connue après, dans la période post-68, où il y avait des mouvements politiques qui contestaient les vieux partis politiques. Mais d'une certaine manière, c'était des machines qui consistaient à essayer d'élaborer des projets pour le pays, voire plus largement, sur des bases idéologiques souvent, etc. On pouvait reprocher, mais au moins c'était des machines. Et ça manque dans le débat politique. Et en fait, d'ailleurs on le voit avec le mouvement La République En Marche, le mouvement qui ne réfléchit pas. Dans lequel on ne voit pas de production d'idées, qui attend effectivement que tout vienne du haut, ça se fait autour d'une personne.
Mais Hervé Nathan.
Et intellectuellement, c'est une copie.
C'est sévère.
Mais
vous voyez,
oui, je suis sévère, mais montrez-moi une note de La République En Marche, une élaboration, un programme autre que celui du président de la République, et c'est la même chose pour la France Insoumise. Ils n'ont pas bougé le projet politique de la France Insoumise n'a pas bougé d'une ligne.
Vous voulez dire que le logiciel reste le même,
celui de la campagne électorale d'il y a 18 mois.
La France a bougé juste sur la démission de Nicolas Hulot, parce qu'au fond, elle est au-delà du personnage, même il peut être populaire, etc. Derrière, c'est quand même l'écologie, et c'est, je crois, en France, une prise de conscience de ce que représente l'écologie. On a en tête le fameux slogan du président de la République qui avait dit « Make the planet great again ». Derrière, il n'y a pas les moyens, derrière, il n'y a pas l'accompagnement politique, il n'y a pas le soutien politique pour ça. Et d'ailleurs, on le voit, lors de la dernière année du quinquennat de François Hollande, Ségolène Royal qui précédait Nicolas Hulot avait eu une augmentation de ce budget de plus de 7%.
Vous dites pas de soutien ou pas de volonté politique pour qu'il y ait
pas suffisant. Il y a des mots, il y a la volonté, il y a sans doute une volonté, mais on sait très bien que la politique derrière, il faut à la fois de l'argent, des moyens et un soutien politique. Et visiblement, ça n'a pas suivi. Sinon, il serait encore là, Nicolas Hulot, on le sait bien.
Allez, on marque une pause. 20h20 sur France Info, le retour de l'info avec Mélodie Pépin.
Gérald Darmanin blanchi dans l'enquête pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Le ministre des Comptes publics obtient un non-lieu définitif. Mais la bataille judiciaire n'est pas finie. Son avocat annonce qu'il y aura un procès pour dénonciation calomnieuse. Quant à l'avocate de la plaignante, elle a fait appel. Au gouvernement, le remaniement sera connu d'ici mardi, après la démission avec fracas de Nicolas Hulot il y a 3 jours. C'est ce qu'annonce le porte-parole Benjamin Griveaux. Promet un gouvernement au complet pour le Conseil des ministres mercredi. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne savent jamais si on avance ou on recule d'une heure. L'Europe veut en finir avec le changement d'heure. 84% des Européens sont contre, selon une grande consultation en ligne lancée cet été. La Commission européenne va proposer d'abolir cette mesure. Il faut encore que ce soit voté par la Commission et le Parlement européen. Au Nicaragua, le gouvernement indique avoir expulsé la mission des Nations Unies sur les droits de l'homme, décision prise après un rapport dérangeant de l'ONU qui dénonce l'usage disproportionné de la force lors des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait plus de 300 morts dans le pays. Et puis le football, Marseille, Bordeaux et Rennes sont fixés. Ils connaissent leurs adversaires des phases de poule de la Ligue Europa. L'OM est dans le groupe le plus compliqué avec la Lazio Rome, Bordeaux avec le Zénith Saint-Pétersbourg et Rennes devra jouer les Ukrainien du Dynamo Kiev.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors cette rentrée d'Emmanuel Macron est un peu bizarre. La démission de Nicolas Hulot, on le sait désormais, le président dispose de 4 jours, ou se donner 4 jours jusqu'à mardi, jusqu'au Conseil des ministres pour trouver le successeur de Nicolas Hulot. Vous nous direz ici même si vous pensez que ce remaniement sera plus large. Il y a la baisse de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, sa tirade controversée à Helsinki sur ces Gaulois que nous sommes, réfractaires au changement. Il n'a pas vraiment eu la baraka ces derniers jours. Écoutez ce qu'on a dit Benoît Hamon, leader de Génération S, sur France Info ce matin.
J'ai été frappé cette semaine du message de Nicolas Hulot et de sa force. Et derrière, vous avez le président de la République qui fait qui ouvre des polémiques stupides au Danemark sur les Gaulois réfractaires.
Des Gaulois réfractaires au changement.
Oui, non, mais c'est c'est tellement pas au niveau, cette histoire de Gaulois réfractaires. Je me suis dit, c'est absurde, c'est ridicule. Et puis en plus, venant, moi qui connais bien le Danemark pour des raisons familiales, j'ai souri parce que nous sommes là-bas dans un royaume. Et dans ce royaume, s'il était arrivé qu'un collaborateur du Premier ministre passe ses loisirs habillé en policier à casser la figure à des jeunes, mais il ne serait pas resté une seconde.
Juliette Méadel, vous évoquiez à l'instant le nouveau monde politique, ça devient un cliché. Vous avez l'impression que ce qui se produit en ce moment relève d'une forme de nouveauté, ou est-ce qu'on n'assiste pas au fond à ce qu'on a toujours connu dans la vie de la Ve République ?
Non, je crois que au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait un souffle, il y avait une envie de changement, une énergie. Et moi, je crois que maintenant, il faut qu'il revienne aux fondamentaux de son élection. Et les fondamentaux de son élection, ce pourquoi on est un certain nombre à avoir voté pour lui, y compris au Parti socialiste, c'était une promesse d'un combat européen.
Vous en étiez. Hein.
J'en étais d'un combat pour une Europe. Alors, c'est un combat qu'il mène, mais qui est difficile à mener en ce moment avec l'émergence des nationalismes. C'était un combat pour une émancipation de la jeunesse. Il y avait des mesures sur les logements pour les étudiants, c'était un combat pour l'environnement, et du coup la désignation de Nicolas Hulot était une formidable promesse, donc je crois qu'il faut revenir à ça, revenir à cette promesse-là, à ces fondamentaux-là, et rapidement, évidemment, remplacer Nicolas Hulot par un ministre de poids, qui puisse avoir à la fois, comme il l'avait actuellement, les transports et l'énergie, mais qui puisse aussi avoir l'aménagement du territoire et le logement. Autrement dit, il faut un ministre de l'environnement qui soit situé juste en dessous du Premier ministre, mais avec un poids dans l'organigramme et dans
une
le protocole.
Une sorte de vice-premier ministre, comme le disait Ota Pulvar, d'ailleurs.
Une sorte de super ministre de l'environnement avec un gros portefeuille et qui puisse à gagner ses arbitrages sans être obligé systématiquement de s'en remettre à la négociation interministérielle.
Hervé Nathan, vous êtes d'accord, vous, avec cette idée du gros portefeuille, là ?
Non, parce que, enfin, oui et non, c'est-à-dire que d'une certaine manière, oui, mais c'était déjà la promesse lorsque Nicolas Hulot a été nommé ministre d'État. C'était que justement, en tant que ministre d'État, il était numéro 2 du gouvernement, enfin numéro 3, si on prend le président de la République. Oui. Et que grosso modo, on pouvait espérer que justement, il échappe aux arbitrages. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Il n'est même pas venu défendre à l'Assemblée nationale l'interdiction du glyphosate. Donc, il n'a pas fait preuve de suffisamment de combativité.
Un petit peu, ce voilà.
Je trouve pensez, que il y a des
sérieusement,
points...
vous pensez que ce que n'a pas réussi Nicolas Hulot, un personnage tout seul. Pourrait le faire, alors donner des noms là, parce que non, d'une certaine manière toute la presse cherche en disant mais qui peut remplacer Nicolas Hulot sur un programme tel que vous le dites, alors que lui-même a expliqué que c'est totalement impossible, sauf à penser
je sais bien que j'ai trouvé alors. Probablement comme vous que l'interview de Nicolas Hulot était un incroyable moment d'expression politique, un moment où les masques sont tombés et où ça fait un an qu'on se demande où il est, et d'un coup il dit bah en fait je pouvais rien faire, donc pardon, j'étais peut-être pas le bon casting. Donc à cet égard, c'était à la fois émouvant, c'était sincère et c'était bouleversant.
Pardon, j'étais pas le bon.
Maintenant, quelques jours après, quand on regarde quand même...
Il a dit grosso modo qu'il était seul, surtout.
Oui, mais moi, je m'interroge au moins sur un combat sur lequel je me suis mobilisée avec d'autres dans ma ville de Montrouge. C'est pourquoi sur le glyphosate n'est-il pas venu mener le combat à l'Assemblée ? Pourquoi sur, par exemple, l'amendement que nous avons fait déposer pour interdire le plastique dans les cantines, pourquoi il n'est pas venu en commission
à l'Assemblée ? Quelle est la réponse, selon
vous ? Mais parce que je crois que il n'a pas eu envie de se battre. Je crois qu'il était peut-être déjà... Mais enfin, les combats méritent d'être menés.
Mais on sait depuis le début le nombre de combats qu'il a perdu. Jusqu'à la dernière minute. Depuis le début, depuis le premier jour, face au ministre agriculteur, monsieur.
On a perdu beaucoup d'arbitrages. On peut pas démissionner à ce point-là. On mène les combats jusqu'au bout du bout. Au moins, on va à l'Assemblée nationale et on se bat.
Alors, une question. Olivier Babeau, le départ de Hulot, c'est la faute à Hulot ? D'après ce que dit Juliette Méadel,
vous caricaturez mes propos.
C'est la décision d'Hulot, ça c'est absolument certain. Ce qui est sûr, c'est que c'est la révélation d'une réalité qu'on connaît depuis très très longtemps, qui est que les ministres ont en réalité des marges de manœuvre extrêmement restreintes, que très souvent les décisions d'un gouvernement se font sur les rives de Seine, c'est-à-dire à Bercy.
Une question de personne aussi.
Beaucoup plus que rue Saint-Honoré, il faut pas Saint-Honoré, et qu'en réalité le pouvoir il est du côté effectivement du budget qui va faire
vous
des arbitrages.
Que Bercy à la main.
Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est pas une question de personne, c'est une question de vision aujourd'hui. Et la vision écologique, alors il y a une vision écologique qui est plutôt à gauche, qui est en fait celle qui a la sensibilité, en réalité, Nicolas Hulot. Et évidemment, il ne se retrouvait pas dans un gouvernement qui ne voulait pas assumer celle-ci, mais qui n'en avait peut-être pas et qui va devoir en réinventer une maintenant, avec une personnalité qu'on attend.
Alors, je vous promets que nous poursuivrons, je voyais Hervé Nathan qui piaffait, rassurez-vous, on revient dans un instant. Nous poursuivrons sur cette idée, nous évoquerons les réunions, oui, allez-y, avec les partenaires sociaux. Et nous évoquerons évidemment cette rentrée d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ce sera tout juste après la météo et le retour de l'info sur France Info dans les infos. À tout de suite.
Ce week-end, suivez vos champions.
Pas de hors-jeu pour Mbappé ! Pavard ! Oh ! Il a tenté sa chance, Benjamin Pavard !
Le subtil ballon piqué d'Antoine Griezmann !
Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans Beansport. Ce week-end, vivez les grandes compétitions de sport européen. Demain, suivez Stuttgart-Bayern Munich, Celta Vigo-Atlético Madrid et Nîmes PSG. Sans oublier le trophée des champions de handball. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info. France Info Météo, avec Calipage, premier réseau en Europe de distributeurs experts en fourniture de bureaux. Votre succès commence par Calipage.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un week-end estival, demain la journée sera très ensoleillée avec quelques bémols au pied des Pyrénées et dans le Val de Saône, un peu de grisaille vite oubliée. Du Jura au nord des Alpes, quelques averses matin comme après-midi. Ce sera plus instable des Alpes du sud au nord de la Corse avec un risque d'averses et d'orages jusqu'à la côte. Et puis sur la pointe bretonne, un ciel bien encombré avec quelques gouttes juste le matin. Les températures seront en baisse. Le matin, seulement 6 à 13 degrés au nord, 9 à 16 au sud, 16 à 20 encore en Méditerranée. L'après-midi, ça montera 21 degrés à Brest et Besançon, 22 à Lille, 24 à Paris, Lyon, 27 à Nantes, 28 à Bordeaux et Bastia, 30 degrés à Perpignan. Dimanche, encore beaucoup de soleil, y compris sur la pointe bretonne, mais toujours un temps instable sur la façade est. Les thermomètres afficheront quelques degrés de plus, une moyenne de 25 degrés au nord et de 28 au sud.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Le gouvernement sera au complet d'ici mardi prochain, promesse d'Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres ce matin. D'ici là sera donc nommé théoriquement un successeur à Nicolas Hulot. Depuis Cherbourg où il est en déplacement, François Hollande lui estime que le ministre de la Transition écologique a eu raison de démissionner de son poste s'il a pensé qu'il n'avait pas les moyens de contrecarrer l'influence des lobbies. Fin de citation. Plus de 180 000 enseignants ont fait leur pré-rentrée aujourd'hui, trois jours avant les élèves. Au programme de la journée, prise de contact, découverte des emplois du temps et des établissements pour les petits nouveaux. Alexis Morel, pour France Info, a passé la matinée au collège Anne-Franck d'Antony dans les Hauts-de-Seine.
Je voulais vous dire à quel point on est heureux de vous accueillir.
Anne Panvier, la principale du collège, se charge de motiver les troupes. Première réunion après deux mois de vacances. Elle va diriger cette année une trentaine d'enseignants pour 365 élèves.
C'est un moment de retrouvailles, bien entendu, et c'est aussi le moment où on va donner un cap où on va rappeler quel est l'état d'esprit de l'établissement.
Avant le grand discours de rentrée, petit café pour raconter les vacances. Anaïs et Brigitte enseignent ici depuis plusieurs années. Des rentrées, elles en ont connu et pourtant...
Moi, la veille de reprendre, j'ai du mal à dormir tout le temps.
Mais ça, c'est... Et tous les collègues.
J'adore mon métier, mais moi, je trouve que bon, parfois, le temps est un peu long pendant les vacances. J'aimerais peut-être avoir moins de vacances.
Moins de vacances, la vie n'est pas franchement partagée. Surtout au moment de regarder les emplois du temps, c'est un point sensible. Au collège Anne-Franck, la direction les a déjà envoyés par mail il y a quelques jours. Isabelle, prof de français, est plutôt chanceuse.
C'est une bonne surprise. On peut demander à tous les profs de France. Je crois que tant que le prof n'a pas eu son emploi du temps, il ne peut pas parler de la rentrée ni de l'année.
Une rentrée marquée au collège par l'interdiction des téléphones portables, c'est dans la loi désormais, mais c'était déjà le cas ici à Antony. L'équipe n'en attend donc pas grand-chose.
Alexis Morel, garde à vue prolongée pour le gendarme qui a abattu un automobiliste après avoir avoir forcé un barrage à Nîmes hier. La victime était à l'origine de deux accidents avec délit de fuite au Gros-du-Roi et à Aigues-Mortes. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête. Attaque au couteau à la gare centrale d'Amsterdam, aujourd'hui aux Pays-Bas. Deux personnes ont été grièvement blessées. L'assaillant présumé a été blessé par balle et arrêté. Ses motivations restent inconnues. La police n'exclut pas la piste terroriste. Et puis Bordeaux voulait en faire son coach, mais Thierry Henry a finalement décidé de rempiler avec l'équipe nationale de football de Belgique, où le champion du monde français 98 a été promu premier adjoint du sélectionneur Roberto Martinez. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, c'est la suite.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités ce soir, Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État à l'aide aux victimes, elle qui enseigne à Sciences Po et qui est membre du groupe de travail sur le service national universel. Avec vous, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International et qui publie avec Pierre de Panafieux Cas d'école, ça parle d'éducation bien sûr chez Fayard, avec Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, une think tech française qui veut, je cite, replacer l'humain au cœur du numérique. Alors nous évoquions à l'instant la rentrée d'Emmanuel Macron, le cas de monsieur Nicolas Hulot. Les partenaires sociaux, eux, pendant ce temps, étaient reçus à Matignon afin de préparer la future réforme et difficile, compliquée de l'assurance chômage. Ils se montrent d'ailleurs, ces syndicats, plutôt mordant quand le leader de Force ouvrière, Pascal Pavageau, sur France Info ce matin, parle du chef de l'État.
On ne peut pas avoir raison tout seul, tout le temps, contre tout le monde. On ne peut pas, on peut mépriser une personne tout le temps. On peut mépriser tout le monde une fois, mais on ne peut pas mépriser tout le monde tout le temps.
Alors il paraît que d'après Camille Laurent de France Info, qui est bien informé, que il nous a fait la cité de la peur, m'a-t-on dit.
Oui. Alors, hier, c'est la cité de la peur. Oui.
Voilà, merci Camille. Hier c'était Astérix dans la cour de Matignon avec BFM TV. Qu'est-ce qui se passe en cette rentrée? Tiens, au hasard, Juliette Méadel, on a l'impression que c'est un peu haro sur Emmanuel Macron.
C'est souvent ça, après les rentrées. Moi, j'ai vécu quand j'étais porte-parole
du PS. Vous voulez dire que ce n'est pas nouveau?
Bah non, en août 2014, on rentre de vacances et là, Arnaud Montebourg démissionne, Benoît Hamon démissionne, on a l'affaire Trier-Veller, l'affaire Thévenoud. Ça a été un grand moment, de solitude.
Ouais, on a oublié tout ça. Éric Scholl, nous avons la mémoire courte. Pour vous, c'est une rentrée, au fond, classique, ordinaire?
Non, mais même François Hollande, ça avait commencé plus tôt, dès août 2012, c'est-à-dire trois mois ou quatre mois que ça commençait. On avait critiqué son été, il n'avait pas travaillé suffisamment, etc.
Oui, les vacances à Brégançon.
Nicolas Sarkozy, ça avait été à peu près pareil. Donc en fait, Emmanuel Macron a eu une année où il n'a pas eu beaucoup de critiques, parce que les opposants classiques avaient un peu disparu de la circulation. D'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'il y a... Il y a les opposants, les nouvelles oppositions, celles qu'on voit depuis plus d'un an. On entend beaucoup les Insoumis, on entend évidemment tout ce qui est Front National, etc. Mais maintenant reviennent toutes les oppositions classiques, et en particulier sur l'aspect social, parce que c'est vrai, on attendait cette rentrée un tournant un peu social de la part de ce gouvernement, et on s'aperçoit que ça va être beaucoup plus compliqué pour pas mal de raisons, et notamment pour une raison économique de conjoncture qui n'avait peut-être pas suffisamment calculé notre président de la République.
Hervé Nathan, seul le MEDEF semble relativement satisfait en cette rentrée 2018.
Oui, parce que en termes de tournant social, on vient d'apprendre que les retraités seront mis à contribution une deuxième fois, et cette fois-ci d'ailleurs 97% des retraités, puisque la seule prestation qui vise les retraités, qui ne sera pas usée, enfin qui sera pas, qui tiendra compte de l'inflation, c'est le minimum vieillesse, et c'est 3% des gens. Donc c'est beaucoup de gens qui vont être impactés. Ils sont déjà très mécontents, et donc la rentrée sociale, ça a été un peu compliqué de la démontrer. Je pense que d'une certaine manière, en 2014, dire c'est un peu classique et citer 2014, ça avait quand même été un tournant dur pour le gouvernement de François Hollande. C'est-à-dire d'une certaine manière, la mécanique était bien brisée à ce moment-là, et ça a été très difficile par la suite. Et là, je pense que entre l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot, etc., le président de la République est dans un cas de figure à peu près équivalent. D'ailleurs, en termes de popularité, il a rejoint François Hollande au même niveau de popularité, plutôt abyssal.
À deux points de différence,
il est sur le même chemin. C'est-à-dire qu'avant, si je me souviens bien, les soutiens du président de la République disaient, regardez, on n'est pas dans la situation de François Hollande, on est même au-dessus de Nicolas Sarkozy.
Oui, c'était deux ans après l'élection présidentielle.
Oui, parce que là, c'est un an. En un an, le crédit s'est usé très très vite.
Olivier Babot, est-ce que dans ce contexte, selon vous,
un remaniement semble une sorte de, au fond, de moment nécessaire pour essayer de redonner un peu de souffle à cette rentrée.
Je crois que le remaniement, ça fait partie des stratégies. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là, pour le coup, c'est l'Ecclésiaste. En l'occurrence que je cite, c'est la, finalement la politique nouvelle forme. Elle ressemble quand même beaucoup à ce qui se faisait depuis très longtemps. Ah ben en voilà, effet, les déceptions sont à la mesure des espoirs. Peut-être que Mme Macron a tout fait très vite et peut-être qu'il déçoit aussi très vite. Finalement, tout arrive beaucoup plus vite chez Emmanuel Macron. Il paraît que le cœur de Mozart battait deux fois plus vite. Donc sa vie aussi a été très courte. Bah, c'est un peu notre Mozart de la politique. Est-ce que ça va se terminer plus rapidement? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, la rentrée sociale où tout le monde essaye de se placer ses pions, c'est normal. Que les syndicats essayent de se faire entendre, vu qu'ils ont eu un camouflet à la SNCF, que ça n'a pas du tout marché, que c'est tombé, et qu'ils sont tombés dans les limbes de l'été. C'est pas du tout étonnant. Ça m'étonnerait qu'on ait une très grosse, pour l'instant, manifestation, une très grosse présence. Finalement, la grande force d'Emmanuel Macron pour l'instant, c'est qu'il n'a pas vu encore émerger de réelle opposition, ni dans les corps intermédiaires, ni évidemment d'opposition politique. Tant que ça sera le cas, je ne crois pas qu'il soit vraiment menacé.
Alors, il y en a un qui semble plutôt en forme en cette rentrée, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui fait l'objet de 4 belles pages dans Paris Match. Il est sur une planche à voile, c'est lors de ses visites estivales. Il est également, il tape le ballon avec un jeune homme. Écoutez ce que disait le ministre de l'Éducation lors de sa conférence de presse, c'était mercredi au ministère.
Entre 20 et 40% des élèves ont des difficultés en français et en mathématiques. C'est bien cela qui détermine la priorité essentielle, celle de l'école primaire et celle de l'ancrage des savoirs fondamentaux.
Voilà Eric Scholl, ce ministre qui, lui, a une belle feuille de route. Hein, les classes à 12 élargies, des évaluations pédagogiques qui arrivent au fur et à mesure. Il y a des mesures un peu spectaculaires, suppression des portables à l'école. Il est en forme, ce ministre.
Depuis le début, il a annoncé énormément de choses, presque trop. Il en a même déjà fait. Il a publié en juin un livre. C'est quasiment déjà son bilan. Alors on se demande quand même. Enfin, il faudrait attendre les 5 ans pour vraiment faire le bilan des réformes à l'éducation nationale. Une éducation nationale, ça se réforme pas en 1 an et ni même en 5 ans. Il faut beaucoup plus de temps. Il y a un temps long pour l'éducation. Néanmoins, il a quand même mis en route des mesures et notamment cette mesure sur le dédoublement des classes qui avait été très très critiquée il y a un an lorsqu'elle a commencé à être mise en place. Et on s'est aperçu que finalement, elle est bien acceptée. Elle est même bien acceptée chez les professeurs, chez les instituteurs. C'est une mesure sociale qui est importante.
Qu'on avait proposée au Parti Socialiste, d'ailleurs, à l'époque.
On va voir comment elle se met en place. Elle a été mise en place pour 60 000 enfants l'année dernière. Là, ça va être triplé cette année.
190 000.
Ça doit arriver un peu plus loin après. Il faut les moyens derrière quand même. Mais pour le moment, effectivement, Jean-Michel Blanquer, il délivre et d'une certaine façon, on a l'impression que les Français lui font confiance. Allez. Parce qu'il connaît son affaire aussi.
Nous allons parler de la rentrée justement parce qu'il y a quand même 881 400 enseignants qui sont rentrés aujourd'hui. Dans un instant, 20h40 sur France Info. Après, le rappel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
L'Église n'en a pas fini avec les scandales d'abus sexuels au Chili. Le nombre d'enquêtes ouvertes pour agressions sexuelles au sein du clergé a été multiplié par 3. 119 enquêtes ouvertes ce 31 août, une centaine de prêtres et d'évêques visés pour des abus sur mineurs commis depuis les années 60. Plus de 10 000 morts, dont 9 500 civils dans la guerre au Yémen. Quel rôle joue la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui mène une coalition arabe dans ce conflit ? Aucune arme vendue n'est utilisée contre les populations civiles, assure une nouvelle fois Florence Parly, la ministre des Armées, donnée une leçon inaugurale à Sciences Po Paris aujourd'hui. L'impôt à la source, un gros caillou dans la chaussure du gouvernement. L'abandon n'est plus à exclure. Si la réforme n'est pas comprise des citoyens, elle ne sera pas mise en place, explique Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui se donne 15 jours pour lever les doutes. Des hésitations que ne comprend pas François Hollande. À Cherbourg, l'ancien président a assuré que la réforme était prête quand il a quitté l'Élysée. François Hollande qui ajoute n'avoir jamais quitté la vie politique. Et puis ce soir, minuit, fin du mercato en football. D'ici là, on joue. Lyon reçoit Nice en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Coup d'envoi dans moins de 5 minutes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors nous allons parler de cette rentrée des enseignants, mais à l'instant, l'écoute de Mélodie Pépin, je vous ai vu faire des bons, si je puis dire, Juliette Méadel, à propos de cette hésitation, semble-t-il, de l'exécutif, à propos de, évidemment, du prélèvement de l'impôt à la source. Que dites-vous ce soir ?
Je dis que le prélèvement à la source, c'était une belle réforme. D'abord, tous les pays européens sont au prélèvement à la source. Je ne vois pas pourquoi la France ferait exception. Ça permet d'abord, ça facilite la vie d'avoir un prélèvement. Deuxièmement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent. Et troisièmement, ça donne aussi, malgré tout, un certain nombre de marges de manœuvre en termes macroéconomiques, parce que ça signifie que, au lieu de mettre votre argent de côté et de gonfler l'épargne, vous avez tout de suite une somme d'argent disponible et vous consommez tout de suite. Donc, pour toutes ces raisons-là, d'ailleurs, c'est le cas dans tous les pays européens, le prélèvement à la source est généralisé. Par ailleurs, la réforme est prête, puisqu'elle est prête, nous l'avions lancée il y a quelques temps, dans le précédent gouvernement, elle est prête à être opérationnelle là, maintenant. Et donc, je trouve que ça serait véritablement un recul. Et enfin, c'était dans la campagne présidentielle. Donc, à nouveau, je vous le redis, moi, je crois que il faut rester sur les fondamentaux de la campagne présidentielle.
Sacré plaidoyer. Ce soir, Hervé Nathan, on va dire que, à propos de ce prélèvement à la source, la France serait comme une sorte de village gaulois qui résiste
là, c'est
en Europe.
Non, mais là, c'est pas la France, c'est le gouvernement français qui a l'air d'être rétif au changement. Réfractaire au changement.
Ce soir, alors, vous, Marianne,
moi, ce qui m'a surpris, c'est l'expression de Monsieur Griveaux, parce que jusqu'à présent, on avait compris que le président de la République ne ferait pas la réforme si c'était pas prêt, s'il y avait des risques, qu'il y ait un bug informatique. Je rappelle quand même que l'État a quelques tradition de bugs informatiques majeurs. Le logiciel le voit, ça fait 10 ans qu'il y a ça fait 10 ans qu'on le traîne. Ça a coûté des centaines de millions d'euros et il y a des militaires qui sont toujours pas payés. Donc c'est quand même là. Il y en a. Il y a aussi le fameux logiciel où tout le budget de l'État devait être amassé de tous les ministères qui n'a jamais été mis en place.
Mais l'angoisse du bug ne doit pas être un frein.
Je voudrais juste rétablir
réforme,
un petit point d'histoire après l'intervention de Mme Méadel, c'est que le but de la réforme, au départ, telle qu'elle a été lancée par le président de la République précédent, François Hollande, ça n'était pas d'avoir une concordance des temps entre les impôts et les revenus, c'était de faire une grande réforme de l'impôt dans laquelle il y aurait une fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Je suis désolé de rappeler ça, c'est de l'archéologie socialiste, dans le programme du Parti Socialiste, et il y a des déclarations de François Hollande, et notamment de Jean-Marc Ayrault, vous n'étiez pas dans
François
ce gouvernement,
Hollande,
mais
était
après,
favorable, oui,
mais dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait fait une intervention en disant c'est la première étape de la fusion du grand pour aller vers le grand impôt républicain qui était le grand programme.
Je vous arrête tout de suite. À mon grand regret, non, mais c'est ce que vous dites n'est pas exact.
Précisément,
François Hollande n'a jamais dit dans sa campagne en 2012 qu'il ferait la révolution fiscale.
Mais c'était le Premier ministre qui n'engageait pas le gouvernement de la France.
François Hollande n'a jamais dit qu'il ferait la révolution fiscale, hélas. En revanche, il avait dit, et c'était une mesure probablement équilibrée, qu'il y aurait le prélèvement à la source.
Juliette Méadel, je confirme le propos d'Hervé Nathan. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait avancé la chose. Il avait été très vite, on va dire,
Ça avait causé sa chute.
C'était recadré. Tout le monde savait très bien que la révolution fiscale n'aurait pas lieu et personne n'avait fait croire l'inverse.
Olivier Babeau, comment traduire cette valse hésitation sur le prélèvement à la source ? Est-ce que c'est un écran de fumée pour faire peut-être oublier le reste ? Il y a des tactiques dans la vie politique.
C'est peut-être une tactique. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude technique. Je ne crois pas à cette inquiétude sur le bug. D'ailleurs, on a bien vu en l'an 2000, il n'y a pas eu de bug de l'an 2000. Peut-être parce qu'on l'avait prévu d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre question. En revanche, il y a deux autres inquiétudes. Il y a une inquiétude budgétaire. Vous savez que c'est la Cour des comptes, par exemple, qui a expliqué que peut-être qu'avec les procédures d'optimisation les comportements d'optimisation développés par les gens avec l'année blanche, n'est-ce pas, on pourrait avoir 2 milliards en moins de recettes. C'est la Cour des comptes qui a estimé ça. L'autre idée, c'est qu'on ne sait pas quel va être le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu qui maintenant va être fait par les entreprises. C'est un petit peu comme quand on était passé à l'euro en partant du franc, on se demandait à la quête si les gens allaient donner 1 euro ou 2 euros parce que c'était entre les deux. Est-ce qu'on va bientôt bien recouvrer ? Mais la troisième inquiétude, elle est vraiment en fait économique et politique, si vous voulez, c'est qu'on ne sait pas quelle va être la réaction des gens et le comportement des gens face à tout d'un coup leur salaire net-net.
Mais les gens savent très bien, les citoyens français sont éclairés, ils savent très bien ce que c'est qu'un prélèvement à la source.
Les gens vont être réduits parce qu'ils payent leurs impôts. Or, au moment,
les gens sont mensualisés
on va avoir bientôt
70%.
La suppression des cotisations sociales sur l'assurance chômage. qui devrait normalement faire une hausse de pouvoir d'achat, mais finalement on verra rien du tout parce qu'on verra surtout la baisse.
Vous voulez dire quoi? Que les Français sont dévots, ils ne peuvent
non,
pas comprendre.
Non, mais je pense qu'il y a un effet. Il y a un effet. On a parlé. Il y a un effet. On va se dire tiens, c'est le pouvoir d'achat qui prend au moment où on essaye.
Mais non, mais ça marche.
Éric Scholl, est-ce que c'est pas une question de pédagogie au fond tout cela?
Oui, la pédagogie, mais comme on sait qu'en ce moment, la question du pouvoir d'achat est en train de revenir sur le devant et devient un sujet important, eh bien ça devient plus compliqué pour le gouvernement.
Nous avons fait une longue digression sur ce prélèvement de l'impôt à la source. Je voudrais juste qu'on dise, je vous garder la main, Éric Scholl, qu'on dise un dernier mot sur cette rentrée des profs aujourd'hui, avant celle des élèves lundi. Je vous fais juste écouter le témoignage, j'allais dire, d'un instituteur, je date un peu d'un professeur des écoles de Valensole dans les Alpes-de-Provence, qui fait, je crois, sa 21e rentrée.
Toutes les écoles où je suis allé, j'ai vu des enseignants qui faisaient des dictées. Pour ce qui est de la Marseillaise, elle est vue de toute façon comme en tant que symbole de la République. Donc elle fait partie des programmes, ça a toujours été le cas aussi. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qu'on appelle les nouveaux programmes. Il n'y a pas finalement de grand changement.
Éric Scholl, vous qui avez plongé dans cet univers de l'éducation nationale, il y a beaucoup de fantasmes, dit cet instituteur,
oui,
ce professeur.
Oui, il y a beaucoup de fantasmes. C'est sûr que sur l'éducation, il y a énormément de fantasmes. On le voit d'ailleurs.
Mais il y a du changement.
Oui, il y a des changements. Mais la dictée, par exemple, elle a déjà, pour le coup, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a voulu remettre la dictée. Et là-dessus, je pense que le ministre actuel a tout à fait raison d'insister. Maintenant, il y a des points sur lesquels il avait présenté des circulaires au printemps où il va beaucoup trop loin. On va pas demander. On ne va pas imposer, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale d'imposer les cahiers sur lesquels, la taille des cahiers sur lesquels que doivent utiliser les élèves.
Ça allait
franchement,
un peu trop loin.
Mais bien sûr, il faut redonner un petit peu plus d'autonomie aux établissements et aux chefs d'établissement. C'est plus que nécessaire aujourd'hui.
Juliette Miadel, ce ministre de l'Éducation, nous l'évoquions, Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'au fond, il n'est pas en train de réussir là où ses prédécesseurs, vous en avez connu plusieurs lors du précédent quinquennat, ont finalement, non pas échoué, c'est pas le mot, mais un petit peu patiné. Je crois qu'il y a eu 3 ministres d'éducation sous François Hollande.
Mais c'est vrai qu'il démarre bien et que l'ensemble des mesures qu'il met en place sont des mesures que moi j'avais soutenues et que je trouve formidables, en particulier dans les quartiers difficiles, la réduction des effectifs dans les quartiers difficiles.
Le fait
la
de donner aussi des primes aux enseignants
enfance,
dans les quartiers en difficulté.
Le changement des pédagogies, les primes aux enseignants, la valorisation des enseignants dans les quartiers en difficulté. Moi je trouve que tout ça va vraiment dans le bon sens et honnêtement je ne peux que m'en réjouir pour notre pays puis pour mes enfants.
Hervé Nathan,
je vais mettre un bémol. Je trouve d'abord il a pris la mesure de mon sens. Vous l'avez proposé, donc non tac. Mais fallait la mettre en place. Mais effectivement, c'est dire il a montré qu'on pouvait faire quelque chose dans l'éducation nationale de réel, de pratique, de pragmatique et de concret. En disant voilà, on va dédoubler les places. Il a deux problèmes. C'est que un, à mon avis, il va être confronté à une demande en disant mais il faut élargir le plus possible et pas simplement aux ZEP-REP, c'est-à-dire les zones d'éducation prioritaire. Il y a des besoins de dédoubler, ou peut-être pas de dédoubler, mais en tout cas d'avoir beaucoup moins d'effectifs dans les classes, en remontant dans les classes. Et l'autre chose, c'est que on s'apercevra peut-être à la fin du quinquennat des dégâts que cause en ce moment le retour à la semaine de 4 jours dans lequel on a des enfants.
Alors,
qui...
Oui, je voulais vous en parler justement. Voilà. Mais c'était le seul point de bémol.
Je pense que
là-dessus, en effet, non, voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je pense que là-dessus, on aurait pu ne rien changer.
Nous en reparlerons lundi, vous savez, parce que les élèves rentrent lundi prochain. Allez, 20h50 sur France Info, le dernier appel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Non-lieu pour Gérald Darmanin, non-lieu définitif dans l'enquête ouverte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Mais l'avocate de la plaignante a fait appel. L'avocat du ministre annonce par ailleurs qu'il y aura un procès en dénonciation calomnieuse. Un gouvernement au complet pour le prochain Conseil des ministres mercredi. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le porte-parole Benjamin Griveaux. Le remaniement sera connu d'ici mardi. Remaniement contraint après le départ du ministre de l'écologie Nicolas Hulot. Une autre figure très médiatique menace de quitter sa mission. Nommée par Emmanuel Macron, Stéphane Bern assure qu'il partira si sa mission sur le patrimoine n'est qu'un cache-misère. L'animateur espère que le loto du patrimoine lancé en septembre sera un succès, que les Français lui donneront raison contre certaines personnes dans les ministères, dit-il. Le changement d'heure vit peut-être ces dernières heures. La Commission européenne veut en finir. Plus de 8 Européens sur 10 ont voté pour l'abandon de cette mesure lors d'une consultation citoyenne lancée cet été. Plus de 4 millions de réponses. Et puis des obsèques au son du gospel à Détroit pour la reine de la soul, Aretha Franklin, décédée à 76 ans. La cérémonie se tient en ce moment. 6 heures de musique, de prières, de discours en présence de Bill Clinton, Ariana Grande, Stevie Wonder et de milliers d'anonymes. Elle était notre trésor, a déclaré le pasteur.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous refermons les informés avec un sujet qui me tient à cœur, figurez-vous. Alors, je ne sais pas si les élèves, avec ou sans leurs parents, vont se rendre à l'école en trottinette électrique. Mais ce moyen de locomotion, eh bien, est en train peu à peu d'envahir nos villes. Et pas seulement à Paris. Ce n'est pas un sujet bobo parisien, comme certains ont pu me le dire. Je vous propose d'abord d'écouter ce que dit Arthur-Louis Jacquier. Il est directeur général de Lime France. C'est une firme américaine interviewée par nos confrères de Brut.
On s'est rendu compte que les trottinettes étaient 10 fois plus utilisées par les utilisateurs américains. Et ça, c'est parce que c'est tellement facile à utiliser que les gens maintenant l'utilisent comme un mode de transport qui est en plus de transport en commun, en plus de marcher à pied, etc. Donc ça devient une véritable habitude de débloquer une trottinette sur le chemin pour finir le trajet métro-boulot ou métro-appart, etc.
Alors Eric Scholl de Courrier International, je me tourne vers vous. Vous disiez dans les couloirs tout à l'heure, ce mouvement part de San Francisco, Los Angeles.
De la Californie, de Santa Monica. Oui. C'est là où cette même société, d'ailleurs, Limeback, a commencé. Et puis ça a eu un succès incroyable. C'est assez récent, ça date d'il y a à peu près un an. Très rapidement, la société s'est développée un peu partout en Californie, mais aussi à Washington et ailleurs. Et c'est un grand succès, mais même un trop grand succès. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été peut-être mal préparé, en tout cas mal préparé par les municipalités. Et on voit qu'il y a un mouvement presque de ras-le-bol aussi, de certains usagers qui n'en peuvent plus, enfin de piétons, d'habitants de ces villes qui finalement supportent plus toutes ces trottinettes qui sont garées un peu n'importe comment. Il y a un problème de loi juridique, hein. Quel est le statut en fait? Est-ce que c'est vraiment sur des piétons? Est-ce que ce sont des automobilistes?
Il faut légiférer.
Il faut à un moment, de toute façon, savoir si c'est des piétons ou si c'est des automobilistes. Est-ce qu'on va sur les trottoirs? À quelle vitesse? Est-ce qu'on va sur la route? Oui, on retombe. C'est une nouvelle mobilité, mais ça peut se traiter. Alors, c'est une bonne idée. Mais on voit quand même que ça soit Los Angeles ou San Francisco, on est en train de revenir un peu en arrière.
Olivier Babot, vous qui êtes à la tête d'une think tech, c'est une solution pour les mobilités ou c'est un gadget au fond sympathique?
Alors, c'est sympathique, évidemment. Le problème des mobilités, il est effectivement beaucoup plus vaste. Nous, on fait beaucoup plus de recherches, évidemment, autour des développements des voitures autonomes, de la modernisation des transports collectifs, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour beaucoup de gens, la moyenne, c'est quasiment 50 minutes, par exemple, en région parisienne, pour aller au travail, pour y aller et revenir. C'est pas en trottinette que vous voulez faire les 50 minutes. Donc, c'est très sympathique et c'est utile. Ça pose des problèmes d'infrastructure terribles, parce que c'est pas du tout adapté. Donc, effectivement, sur les trottoirs, vous gênez les piétons.
Il faut
sur la route, vous risquez votre vie.
Pistes cyclables.
Probablement, parce que ça, effectivement, ça va pas mal avec la piste cyclable. En tout cas, pour les électriques, de toute façon, déjà, vous pouvez pas aller sur le trottoir. Mais pour les autres, la question se pose, vous n'allez pas à la même vitesse. Bon, une fois ces problèmes réglés, il faut pas cacher que le vrai problème aujourd'hui, c'est quand même d'organiser ces grosses mobilités collectives qui doivent être complètement revues. La trottinette, c'en est un élément sympathique et pourquoi pas utile de temps en temps.
Hervé Nathan, vous pourriez pratiquer la trottinette électrique pour vous rendre à la rédaction de Marianne.
Oui, il y a des pistes cyclables qui à peu près feront à peu près le chemin.
C'est une solution, non?
C'est une solution, mais moi je vais rejoindre mon collègue. Il y a un problème de régulation et il y a un problème de régulation sur la trottinette, mais par exemple aussi sur les loups. Et un des problèmes qu'a la maire de Paris, puisque ici on est à Paris, c'est que elle a dans le grand maelstrom qu'a subi à la fois Vélib et Autolib, il y a tout d'un coup une éruption de mode de déplacement dérégulé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont très étonnés de voir des vélos de toutes les couleurs garés n'importe comment sur les trottoirs, abandonnés sur les trottoirs, alors que normalement Vélib, on range ses vélos, c'est fait pour ça, pareil pour Autolib, etc. Et on a l'impression que le système qui va remplacer Autolib lui-même risque d'être un système un petit peu anarchique. On va retrouver les voitures un peu partout, on verra. Et donc il y a un problème effectivement de régulation. Il faut réguler. Effectivement,
il faut réguler.
C'est 5 ou 7 ou c'est c'est 5 ou 7% des gens qui utilisent ces moyens-là, alors que 90% des autres, ils sont à pied, ils utilisent les transports en commun.
Juliette Méadel, pour conclure, j'ai vu passer tout à l'heure devant la maison de la radio un papa très sympathique avec son enfant, mais sans casque, sans rien. Il devait rouler, je pense, le maximum, c'est 25 km/h. Juliette Méadel, il y a aussi un aspect, peut-être, problème de sécurité. Il faut effectivement réguler tout ça.
Ouais, enfin, la régulation, moi, je fais du vélo depuis 20 ans, j'ai un mal fou à mettre un casque parce que c'est désagréable. Et bon, tout ça pour quoi ? Tout ça pour dire que la réalité, c'est qu'il faut qu'on arrive petit à petit à faire face à la crise des transports en commun. Les transports en commun sont saturés, surtout en Île-de-France. Les embouteillages ne cessent d'augmenter. Donc, il y a un problème sur les transports et un problème sur la pollution. Donc, tout ce qui peut permettre de se transporter librement, sans polluer et en gagnant du temps est bienvenu.
Alors, nous allons conclure les informés avec, comme à l'accoutumée, eh bien, Éric Scholl. Qu'y a-t-il à la une de Courrier International ? Je vois, Juliette Méadel vous a piqué le numéro.
Ouais. On parle du Moyen-Orient en parlant de ce nouveau désordre, c'est-à-dire après 7 ans de crise en Syrie, mais on regarde le Moyen-Orient dans la plus grande acception jusqu'au Maghreb, et on fait un état des lieux de cette région du monde encore très déstabilisée.
Et Hervé Nathan, la une de Marianne, un peu étrange. Hein, on voit un Nicolas Hulot avec des flèches.
Saint-Sébastien, qui est martyrisé par les flèches, c'est ce mode de martyr. Comment les lobbies ont tué Nicolas Hulot, c'est notre enquête. Et une autre enquête aussi sur l'état des hôpitaux, le nouveau palmarès de la honte dans les hôpitaux.
Merci à vous Hervé Nathan, merci Olivier Babot, merci Éric Scholl, merci Juliette Méadel d'avoir été les invités des informés de France Info. Demain, samedi et dimanche, vous retrouverez mon ami Pierre Neveu pour présenter l'émission, et moi je vous retrouve avec bonheur, avec plaisir, lundi soir. Bon week-end.